Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur Radio France International. Vous êtes bien sur RFI et c'est votre émission consacrée au football avec des aiglons bien au chaud dans leur nid de leader. Nice est toujours premier de la Ligue 1 après sa victoire à Guingamp. Une équipe qui s'inscrit dans la régularité et devance toujours les Parisiens et les Monégasques. À 4 journées de la trêve hivernale, le titre de champion d'automne leur tend la main à ces aiglons. Nice, le gym, l'équipe et son centre de formation, nous en parlerons avec l'un des membres de ce club, Emers Faé, l'ancien international ivoirien formé au FC Nantes, actuellement entraîneur des moins de 17 ans à Nice. Nice et Belanda, Paris et Cavani et Ben Arfa, Lyon et Valbuena, ces équipes ont toutes gagné hier soir et grâce à des joueurs clés en forme ou qui retrouvent la forme. Nantes humiliée par Lyon et relégable, au contraire de Lille qui s'extirpe un peu de la zone rouge. Un changement d'entraîneur suffit-il au miracle? Nous nous poserons la question. Et Zidane a marqué, enfin pas Zizou, hein, mais Enzo, le fils aîné de Zinedine Zidane, entré pour la première fois dans un match officiel dans les rangs du Real Madrid. Il a participé à la victoire fleuve en Coupe du Roi de l'équipe B des Melengues. Et nous parlerons de ses fils d'eux, ses fils de grands joueurs qui essayent eux aussi de mener une carrière. Invité dans ce studio aujourd'hui, nous avons Hervé Penaud de l'équipe. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous, quel plaisir de vous retrouver.
Et puis nous avons aussi Chérif Guémour, notre confrère de SoFoot. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Christophe Jousset est là, bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Puis en deuxième mi-temps, nous aurons le Jefe Alejandro Valente qui se fera un plaisir de venir ici jouer l'Argentin dans ce studio et à ce micro. Radio Foot, c'est parti. Nice est bien accroché à la première place du championnat de France et continue de surprendre en Ligue 1, de régaler aussi au moins notre confrère de l'équipe, hein, n'est-ce pas? C'est pas vous qui signez, mais qui signeriez presque, Hervé, un de vos confrères écrit « Nice est un leader joyeux, joueur, plaisant, mais aussi sacrément solidaire et collectif, ce qui aide à aller loin ». On dit aussi de ce club à la première position qu'il est une anomalie sympathique. Il a tout pour lui.
Alors, anomalie sympathique, je trouve que c'est peut-être un peu excessif. Parce qu'il faut quand même pas oublier la saison dernière. Non, mais la saison dernière, ils sont quatrième.
On dit que ça vient d'eux, hein, cette petite formule un peu amusante.
C'est sûr, mais on parle pas d'un club qui vient de nulle part, quoi.
Exactement.
C'est un club qui était déjà quatrième l'année dernière. Alors, c'est vrai que les bouleversements incroyables de l'intersaison ont fait qu'on pouvait s'interroger sur ce qu'allait devenir ce Nice, au moins en début de saison. Nouvel entraîneur, ce qu'on a considéré comme les trois ou quatre meilleurs joueurs partis, Mendy, Pied, Germain, etc., qui étaient vraiment les fers de lance de cette équipe-là, plus là. Et puis, ils ont réussi à avoir un recrutement très intelligent. Ça, il faut quand même noter la qualité de recrutement de ce club-là, qui a réussi à dénicher des joueurs qu'on connaissait moins, et puis peut-être qu'on croyait un petit peu fini, hein, on pense à Balotelli. Et puis, un joueur comme Cyprien, qui s'est vraiment installé dans ce système niçois, plus des gars sur les côtés.
Ben
alors là, il fallait les trouver, hein, Ricardo Pereira et D'Albert, qui étaient des joueurs à trouver, à chercher. Et puis ça fait un Nice très joueur sous la coupe d'un Lucien Favre qui a vraiment un style de jeu très à lui, qui me rappelle d'ailleurs par beaucoup de côtés, beaucoup d'aspects Gourcuff. La grande différence, c'est que lui, il a des joueurs, alors que Gourcuff, ses joueurs sont beaucoup moins bons. Mais tout est travaillé, tout est collectif. Et puis, vous avez mis en place un système avec une qualité au milieu de terrain qui est assez incroyable. Et puis, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Et
vous les avez...
un peu, parfois. Hein, mais
vous êtes très prolixe, d'ailleurs, parce que vous les avez admirés hier soir sur la pelouse de Guingamp. Vous y étiez, hein, cette
Absolument.
Victoire par 1-0. Et justement, eh bien, c'est aussi une équipe qui sourit, finalement, Nice. Ils sont premiers. Et qui sourit? Eh bien, c'est Younes Belhanda, le milieu de terrain, revenu un peu nul. Par lui aussi, hein, est revenu tant à son niveau qu'en Ligue 1. Il avait été, je vous le rappelle, pris Marc-Vivien Fauré. En 2012, il jouait alors pour Montpellier, les champions de France. Le sera-t-il encore? En tout cas, eh bien, il rêve.
On sait que Paris et Monaco, c'est les deux grosses écuries du championnat. Après, personne n'est laissé de côté. Donc voilà, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On est en haut pour l'instant, donc on sourit.
On sourit. Le problème, c'est que le PSG sera proche, hein, à un point. Est-ce que, selon vous, Chérif, Nice peut tenir le rythme et surtout, allez, peut-être être champion d'automne? Il reste 4 journées.
Champion d'automne. Enfin, sur la dynamique toute récente, Paris ne perd plus. Paris est de plus en plus machine de guerre.
Eux n'ont qu'une seule défaite en Ligue 1, hein, Nice.
Ouais, mais il y a eu des petits signes d'essoufflement récemment. Ensuite, je l'ai.
Il y a plus Balotelli en ce moment.
Il y a plus Balotelli. L'équipe était un peu jeune, donc au niveau de la gestion des efforts. Faut voir. Maintenant, ils sont libérés entre guillemets de l'Europa League. C'est quand même un peu la déception. C'est le petit point noir un peu de ce début de saison. C'était champion de France, champion d'automne, j'y crois pas trop. Je pense que Paris et Monaco vont produire quand même leur effort malgré la Ligue des Champions. Mais je continue. Alors pareil que pour Hervé, je continue de suivre très près cette équipe. J'ai vu tous leurs matchs l'année dernière. Il y a déjà une continuité avec le travail de Puel, mais plus profondément, il y a tout le travail de formation qui a été entamé il y a 10 ans. On a eu des responsables du centre de formation là pour notre dernier numéro de SoFoot sur la nouvelle génération montante. C'est un club qui est absolument magnifiquement construit d'un point de vue sportif, et en plus c'est assez symbolique quand on voit ce qui est devenu Nantes, qui était une des grandes écoles du jeu, de la formation. Au même moment, c'est la catastrophe à Nantes, et puis c'est un peu la renaissance du côté niçois. Donc champion d'automne, j'y crois pas trop, mais je continue de garder un œil sur cette équipe et je pense qu'ils joueront les premiers rôles, par contre, jusqu'au bout.
Parce que Chérif, il y a quand même ce fameux match. Parce que ça, il faut en parler. C'est-à-dire que vous avez un match à Nice, Nice va recevoir Toulouse. Alors, si Nice venait à battre Toulouse, il pourrait arriver au Parc des Princes en leader. Parce qu'il y a quand même ce match. PSG-Nice dans deux journées. Et donc ça veut tout dire. Alors là, on en saura plus, effectivement, voilà. Sur la capacité niçoise à aller au bout, en tout cas pour être champion d'automne, ouais. Même si c'est anecdotique, entre guillemets, mais ça reste quand même un titre un peu honorifique et sympathique pour une équipe comme Nice. Et puis après, on sait jamais. Parce que vous avez parlé de Belanda, notre joueur RFI de l'année. Mais rappelez-vous quand même que Belanda était à Montpellier en 2012 quand ils ont battu le Paris Saint-Germain.
Oui, de l'année 2012, hein,
de l'année 2012.
Belanda, ouais. Match nul, 2-2 au Parc.
Non, mais ils avaient été champions de France.
Ah oui,
c'est les derniers à avoir tombé, les derniers à avoir tombé le Paris Saint-Germain. Oui, oui. Ça reste le Montpellier de Belanda.
Il a un petit savoir. Voilà, exactement. En tout cas, cette équipe de Nice, vous le disiez, elle était quatrième l'année dernière, elle l'avait été en 2013. Cet été, elle a un petit peu changé de dimension parce qu'il y a des capitaux chinois qui sont arrivés, mais on voit le travail de Jean-Pierre Rivière sur la longueur, le président, et notamment quand il y avait Claude Puel. Alors, l'équipe première s'appuie beaucoup, et vous le dites très bien, Chérif, sur ce centre de formation.
Très bien, il le dit, disons.
Non, je le dis magnifiquement.
Et à la tête des moins de 17 ans, il y a un ancien international ivoirien, Emers Faé, qui est en ligne avec nous. Bonjour Emers Faé.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans Radio Foot International. Alors, vous êtes ancien international ivoirien, mais je précise, vous êtes aussi milieu de terrain qui a été formé au FC Nantes. Et puis, vous avez joué pour Nantes et joué 4 ans pour les Aiglons de 2008 à 2012. Vous avez dû vous arrêter, cesser votre carrière pour des raisons de santé. Et vous avez appris finalement un autre métier à l'OGC Nice, c'est ça?
Ouais, je dirais même plus que je suis en train de l'apprendre, donc... C'est vrai qu'à la fin de ma carrière de joueur, j'ai vite basculé et je me suis tenté à essayer un peu une carrière d'entraîneur, et pour l'instant ça se passe très très bien.
Avant de poursuivre sur cette carrière d'entraîneur et sur le centre de formation, un petit mot quand même sur cette équipe A de Nice. Vous avez entendu mes confrères Hervé Penaud et Chérif Guémour. Comment vous la voyez-vous, cette équipe de Nice, leader du championnat ces jours-ci?
Ouais, très très bien. C'est vrai qu'au début, c'était un peu surprenant, parce qu'avec tout ce qui s'était passé pendant l'intersaison, on ne s'attendait pas à ce que la mayonnaise prenne aussi vite. Et puis aujourd'hui, quand on voit les matchs et qu'on regarde le contenu, personnellement, je suis pas du tout surpris, et j'ai vraiment bon espoir pour la fin du championnat, sans parler de titre, sans parler de classement. Voilà, je sais qu'on va faire une bonne saison et que... J'entendais parler d'essoufflement tout à l'heure. Je suis plutôt optimiste par rapport à ça, et je pense que, vu la qualité de la rotation de l'effectif, je pense qu'on pourra quand même tenir jusqu'à la fin de la saison.
Alors, cet effectif, c'est un des plus jeunes, hein, du championnat de France. Vous êtes, vous, un, entre guillemets, bien sûr, avec humour, mais un fournisseur de cette équipe A de Nice?
Ouais, bon, après, à échelle vraiment, vraiment, vraiment réduite, mais... C'est vrai que nous, voilà, on essaye d'alimenter un peu l'équipe première, et c'est vrai que nous, c'est une fierté pour nous de voir que les jeunes qui passent entre nos mains, à un moment donné, arrivent en équipe première, et on essaie de faire en sorte qu'au lieu que le club aille chercher des joueurs à l'extérieur, et ben ils viennent chercher les joueurs au centre de formation.
Qui avez-vous eu dans votre équipe des moins de 17 ans qu'on retrouve maintenant dans l'effectif premier?
Moi, mes débuts, j'ai eu Bostani, Olivier Bostani. Et puis bah, là, le dernier exemple en date, là, le dernier que j'ai eu, le plus récent, dis-moi, c'est le jeune Malanxar.
Oui, effectivement. Malanxar qu'on retrouve dans l'équipe et dans les matchs actuellement. Christophe Jousset, une question pour vous, Emers Faye.
Oui, bonjour. Bah, d'abord, revenir peut-être s'arrêter un petit peu sur ce Malanxar, parce que ça a l'air d'être un phénomène qui est en train d'impressionner pas mal de monde dans la charnière centrale de la défense niçoise. Est-ce que il y a une grosse part de risque quand on lance comme ça un jeune à ce niveau de la Ligue 1?
Ouais, toujours. Il y a toujours une part de risque, parce que vous savez comment ça se passe quand vous arrivez en pro, vous êtes médiatisé, vous avez du monde qui vous tourne autour. Donc quand vous avez un certain âge, bon, vous arrivez plus ou moins à gérer. Mais c'est vrai quand vous êtes jeune, quand vous avez 17 ans, du jour au lendemain, vous retrouvez titulaire en équipe première d'une équipe qui tourne hyper bien, qui est première du championnat, et que vous avez toutes les sollicitations qui vont avec, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que je dirais plutôt un pari. Mais vous savez, à Nice, on essaie de faire en sorte que quand même de l'aider, de l'épauler, de beaucoup parler avec lui, que ce soit les éducateurs qu'il a eu au centre ou le staff de l'équipe première. Donc, il est vraiment bien encadré et pour l'instant, tout se passe bien.
Justement, Emers Faye, on va entendre votre directeur, le responsable du centre, Alain Vatelet, avec qui vous avez suivi la formation d'entraîneur, et puis aussi l'ancien entraîneur Claude Puel. C'était au micro de Canal Plus de J+1. Ils évoquent justement, pour eux, l'importance qu'a le centre de formation au sein du club de Nice.
Avant, on n'arrivait pas à avoir les meilleurs joueurs. On n'avait que les deuxièmes couteaux, on va dire. Et maintenant, sans beaucoup d'argent, on arrive à combattre Lyon, Montpellier, qui était un très gros centre, et d'autres. Donc je parle surtout que ceux qui sont les plus près de nous et qui nous piquent beaucoup de joueurs. Enfin, qui nous piquaient beaucoup de joueurs.
Je suis venu ici parce que le projet global était intéressant, c'est-à-dire c'était aider à restructurer le club et puis c'est mettre toute une politique sportive en place au sein du club, qui parte des plus jeunes jusqu'à l'équipe première.
Il y a une chose qui se passe justement, Emers Faye, on entendait les anciens responsables. Lui, Claude Puel, pendant ses 4 ans au gym, il a lancé 22 des joueurs qui avaient été formés dans le centre. On dit qu'aussi vous finissez la formation de certains qui viennent de Lyon ou d'ailleurs ?
Bah, on continue, on va dire. On continue la formation des jeunes qui viennent de Lyon ou qui viennent de n'importe quel autre club amateur. Après, voilà, c'est un peu le but du jeu, c'est un peu le but du projet. Voilà, on a des jeunes au centre qu'on récupère et on essaie de leur donner le maximum d'arguments, le maximum d'atouts pour venir agrémenter justement l'équipe première.
Y a-t-il des consignes dans le club sur un certain style à la niçoise? Je pense évidemment à la Masia avec le club de Barcelone, où on sait que tous les joueurs, tous les très jeunes, sortent finalement d'un certain même moule et avec la même manière de jouer.
Bah, nous, on a des consignes, oui et non en fait. On a un profil de joueurs qui nous intéresse. Nous, on aime bien avoir des équipes qui jouent, qui ressortent le ballon de derrière. Donc bien évidemment, quand vous avez un style de jeu comme celui-ci, vous êtes obligé de prendre des joueurs plutôt bons techniquement, plutôt intelligents. Après, le physique, pour nous, c'est pas un critère qui compte. Donc non, on essaie vraiment de se baser sur les qualités techniques et l'intelligence du jeu des joueurs qu'on récupère et qu'on forme.
Oui. Christophe.
Pour revenir sur les propos tenus par Alain Vatelet, alors pas forcément peut-être dans la presse écrite assez récemment, bon c'est vrai qu'il s'est pas mal exprimé pour essayer d'expliquer le succès de l'OGC Nice actuellement. Il disait que l'objectif était d'avoir dans l'équipe première, parmi les titulaires, 5 ou 6 joueurs issus du centre de formation du club. Cet objectif-là, à quelle échéance est-ce que vous pouvez l'atteindre à votre avis?
Ah, il faut, vous savez, dans un projet comme celui qu'on a actuellement à Nice, je pense qu'il faut pas se donner de date butoir, de date d'échéance. Non, on essaie de travailler sereinement, tranquillement. On veut pas brûler les étapes. On essaie de former les joueurs en fonction de leur maturité. Et puis, plus vite il y en aura qui seront prêts à aller en équipe première, mieux ce sera pour nous. Mais après, on se met pas une pression de temps, parce que bon, c'est vrai que travailler dans la précipitation, je pense que c'est pas travailler avec sérénité.
Sheriff Guémour, une question pour vous.
Oui, bonsoir Emers. Déjà félicitations, hein. On suit cette équipe de près et on est vraiment enchantés. Je pense aussi au fait que vous avez été formé à Nantes, et puis bon, quand on sait ce qui est un peu arrivé, c'est bien que vous puissiez repartir dans un club justement qui fait vraiment de la super formation. Je voulais juste poser une question. Qu'est-ce qu'il a manqué cette saison à Nice en Europa League?
Moi, je pense un peu d'expérience. Ouais. Là, quand on regarde le contenu des matchs, on n'a pas été surclassé par nos adversaires. Hein. Mais c'est vrai qu'il a manqué peut-être ces petits détails, soit en finition, soit une petite erreur défensive, que eux, dans les grands clubs, les clubs qui ont l'habitude de jouer des compétitions européennes, cette rigueur-là, ils l'ont. Quand je vois Schalke, qu'on reçoit première journée d'Europa League, qui sont en difficulté en championnat. À l'époque, je crois qu'ils n'avaient pas gagné un match en championnat et qu'ils arrivent et déploient un football vraiment de qualité. Je me dis que ces mecs-là, ils ont tellement l'expérience de jouer sur la scène européenne que finalement, ils savent basculer entre le championnat et la Coupe d'Europe. Mais nous, on est une des équipes la plus jeune d'Europe et pour la plupart, ils découvraient l'Europa League. Donc, c'est vrai que c'est pas évident quand vous découvrez l'Europa League comme ça d'être performant et compétitif dessus. Donc, je pense qu'il nous a manqué un peu d'expérience.
Okay. Hervé Penaud a une question pour vous.
Bonjour Emers, ça fait une éternité que je t'avais pas eu au téléphone. Et ouais, bah, félicitations pour ce que tu fais. Et puis, je voudrais revenir un peu sur nos bases africaines quand même. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'équipe de Côte d'Ivoire? La victoire lors de la dernière CAN, c'était plutôt une surprise. Hein, on s'attendait peut-être pas. C'est peut-être l'après-génération dorée, j'allais dire, qui arrivait. Il en restait quelques-uns. Et comment tu as vécu tout ça et comment tu trouves aujourd'hui l'évolution du football ivoirien?
Ben, comment j'ai vécu ça? Non, j'étais content, j'étais fier. C'est vrai que pour notre génération à nous, là, qu'avons galéré, hein, c'est vrai qu'on avait une très très bonne équipe et on n'arrivait pas à concrétiser cette génération par un titre.
Vous avez joué en 2006, hein, je le précise pour les auditeurs, la CAN en 2006, la
ouais,
finale.
2006, oui, la finale, ouais, c'est vrai, la finale. Ouais, donc,
finale perdue.
Non, nous on était contents, nous de l'ancienne génération, on était vraiment contents. Et c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement de tout le travail qui a été fait là depuis 2004. Qui a porté ses fruits. Après, nous, on savait qu'à un moment donné, ça allait payer. Après, c'est vrai que la surprise est venue parce qu'on s'attendait pas que ce soit cette génération-là qui la remporte. Mais non, moi, j'étais vraiment content et fier pour la Côte d'Ivoire. Après, pour la nouvelle génération qui arrive, je pense qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Ils sont encore jeunes, donc il va leur falloir du temps. Il va leur falloir un peu d'expérience. Mais je pense que sur les 4-5 prochaines années, il y a vraiment possibilité de refaire une grosse génération.
Christophe, pardon.
Je voulais juste te poser la question. S'il y avait un petit coup de cœur aujourd'hui dans l'équipe de Côte d'Ivoire que tu aurais pour les auditeurs, ce serait quel joueur qu'il faudrait suivre?
Ben moi, j'ai bien aimé le match. J'ai pas trop suivi les dernières compétitions de la Côte d'Ivoire, mais pour les 2-3 dernières sorties, c'est vrai que j'ai regardé. J'ai bien aimé le Kessé, là, qui joue en Italie. Qui avait pas mal de qualité, et puis c'est un milieu de terrain qui a un potentiel et qui a un avenir qui est assez intéressant.
Ça te rappelle quelqu'un, quoi.
Et merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International pour cette émission de sport où on avait bien envie de souligner que dans l'effectif du club de Nice qui est actuellement en tête du championnat de France, eh bien il y a un ancien joueur et aussi un ancien éléphant international ivoirien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, au plaisir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Franchement, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. C'était un super joueur. Il avait un potentiel incroyable. Malheureusement, il a eu ce problème de santé qui l'a contraint d'arrêter sa carrière.
Contraint vraiment très jeune, mais finalement, il a 32 ans. Et donc, il
a arrêté à 27-28 ans à cause de ses phlébites à répétition qui l'ont obligé à s'arrêter.
Qui l'ont obligé à cesser de jouer. C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause. On va continuer à parler un peu de ces équipes françaises qui vont bien grâce à certains joueurs. Puis on parlera aussi de l'Espagne.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI et toujours avec Chérif Guémour, Hervé Penaud et avec Christophe Jousset. Alors, nous en étions à la Ligue 1 et nous allons continuer puisque derrière Nice, eh bien, commence à s'imposer eh bien, le Paris Saint-Germain qui est désormais seul sur la deuxième marche du podium, le PSG. Seul parce que Monaco a trébuché, c'était la veille, un nul à Dijon, 1-1, qui ont l'habitude de marquer 3 buts par match. Eh bien là, ils n'en ont marqué qu'un, les Monégasques. Et le PSG se retrouve donc seul sur la deuxième marche. Il a gagné hier au Parc des Princes contre Angers. Edinson Cavani a inscrit son 100e but durant ce match. Alors c'était sur pénalty, mais la commémoration lui a valu un carton jaune. Il avait exhibé en fait un t-shirt blanc où figurait le nom et surtout le logo de l'équipe de Chapecoense. On vous en a parlé ici depuis mardi. C'est l'équipe brésilienne qui a disparu presque entièrement dans l'avion qui s'est écrasé en Colombie lundi soir. Alors, une minute de silence avait été respectée avant le match. Et puis, Edinson Cavani, uruguayen, il y a aussi beaucoup de Brésiliens dans cette équipe, Lucas, Thiago Silva, tous très émus pendant la minute de silence. Eh bien, Cavani avait préparé cette commémoration très particulière. L'arbitre lui a quand même mis un carton jaune. Il a strictement, certes, respecté le règlement, mais il lui a expliqué quand même pourquoi il lui mettait un carton.
Lui me parlait en anglais, je pense que lui m'a dit que c'est un bel geste. Mais c'est normal que c'est pas possible de faire les messages, les choses au-dessus de le maillot. J'ai compris, je sais que c'est comme ça. Mais la chose plus importante, c'est le message que je voulais donner. Le carton, c'est pas un problème.
C'est un peu bête, Hervé.
C'est un peu bête.
Il lui a expliqué qu'il était obligé, quoi.
Moi, sur le coup, je vais défendre l'arbitre, pour tout vous dire. Ah oui, non, parce que j'ai vu que l'arbitre s'était fait un peu massacrer en France depuis cette histoire.
Alors, la une de l'équipe dit carrément, c'est ridicule, hein, c'est ça ?
Scandaleux carton jaune.
Scandaleux.
Oui. Moi, je vous donne mon point de vue. je trouve pas ça scandaleux. Il y a un règlement. Ouais. Il y a un règlement qui s'applique. Malheureusement, l'arbitre est bien obligé d'appliquer le règlement. Et puis, alors, à un moment, on va placer où le curseur? Ouais. Alors, faut m'expliquer. Effectivement, il y a une équipe qui est avec, il y a pas mal de morts, une soixantaine de personnes dans l'avion et dans l'équipe, une.
71 au total, mais.
Une vingtaine de personnes de l'équipe. Mais. Si, prenons des joueurs africains qui pourraient être du Nigeria, par exemple, et décidaient, après chaque but, de faire une commémoration sur, en mémoire des gens décédés après les attaques de Boko Haram, par exemple. Je suis persuadé qu'ils prendraient des cartons jaunes et personne s'en offusquerait. Donc je trouve, si vous voulez, à partir du moment où il y a ce règlement, c'est placer le curseur, savoir à quel moment vous pouvez le faire ou pas le faire. Ou dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il y ait ce règlement. Il faut combattre le fait qu'on n'enlève pas un maillot. Et si Cavani il avait envie de faire cet hommage, est-ce que je peux comprendre ? Attendez, hein, je ne veux pas du tout à Cavani d'avoir fait ça. Au contraire, bravo. Mais pourquoi les joueurs du PSG ne viennent pas avec ce maillot dès le début du match ? Ça évite le problème de savoir si vous marquez un but ou pas, parce que finalement l'hommage, vous pouvez jamais le faire si vous marquez pas, quoi, en gros. Donc lui, l'arbitre, il est pris par le règlement, malheureusement. Alors on peut me dire. Ah ben, il n'a pas eu une réduction humaine, oui, mais enfin, je peux vous dire que des malheurs dans le monde, malheureusement, il y en a dans beaucoup de pays. Quelqu'un qui a perdu, par exemple, un enfant, prenons cet exemple-là, voudrait peut-être aussi dédier un but à son enfant décédé. Là, ce n'est pas 60 personnes, c'est une seule personne, mais la douleur est la même. Donc, à un moment, vous placez où le curseur ? À partir du moment où il y a un règlement, c'est triste à dire. Et puis, à la rigueur, si vous voulez vraiment le faire, tant mieux, j'allais dire. Il le fait, il voulait le montrer, il prend un carton jaune. Ce que j'espère, c'est que la commission de discipline peut-être lui enlèvera. Ça, c'est une chose. Et puis sinon, c'est aussi faire preuve de courage, entre guillemets, d'accepter d'avoir un carton jaune pour montrer quelques valeurs qu'on peut trimballer.
Parce que rappelons-le, le message de la FIFA et en tout cas le règlement, c'est qu'on ne porte pas de maillot avec un message qui soit ou politique ou religieux, parce qu'on les a vus aussi beaucoup, hein, ces joueurs avec 100% Jésus, avec j'aime Jésus et tout ça.
Bien sûr, mais on pourrait tout à fait aussi découvrir un moment, celui qui est chrétien, celui qui est musulman, celui qui est ci, celui qui est ça, et ben il montrerait effectivement après chaque but à l'effigie, parce que pour lui c'est quelque chose de très important, hein. Ça dépasse peut-être le cadre de la vie et de la mort.
Mais Christophe. Là, en fait, le carton jaune, il est justifié par le fait qu'il ait enlevé son maillot.
Oui, c'est vrai.
Il aurait pu aussi, Cavani, soulever son maillot pour découvrir le message, et je pense qu'à ce moment-là, l'arbitre n'aurait pas...
Je connais pas le point de règlement, la subtilité, effectivement.
Ouais.
Bah alors dans ces cas-là, il aurait dû le soulever. Alors, si
mais c'est vrai que reprocher à l'arbitre d'avoir appliqué le règlement, c'est un peu se tromper de problème.
Ils
sont là pour ça, les arbitres.
Shérif.
Comme Hervé Penaud.
Pas mieux.
Je suis d'accord. Non, pas plus. Je suis d'accord. On a fait une minute de silence. Ouais. On peut rendre hommage à
Ils avaient un brassard noir après, aussi. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de latino-américains.
Alors, qu'ils le fassent, ça ne pose aucun problème. Nous, ça ne nous pose aucun problème. Parce que simplement, il a un carton jaune. Bon, alors, est-ce que ce sera enlevé ou pas? Ça, on verra par la suite. Hein.
Ah peut-être qu'il sera enlevé. Non, faut le maintenir.
Faut aller jusqu'au bout. Bon. Ouais. Jusqu'au bout du règlement. Ouais. En tout cas, celui qu'on a remarqué aussi sur la pelouse hier soir, qui a contribué à cette victoire du Paris Saint-Germain et qui, commence à être mieux noté dans les quotidiens au lendemain du match, c'est le cas de Hatem Ben Arfa, noté 6 par l'équipe aujourd'hui et 6,5 par nos confrères du Parisien. Eh bien, qui tresse des éloges à son camarade, c'est Lucas.
Hatem, il est trop fort, tout le monde sait de la qualité qu'il a. S'il se met à fond, bien sûr qu'il va jouer, qu'il va nous aider beaucoup. Et je suis content pour lui parce qu'il travaille, il a fait un bon match, il a joué contre Lyon aussi. On est tous avec lui, nous sommes une très bonne équipe et avec tous les joueurs disponibles, on est trop fort.
Bon, alors on apprend qu'il travaille, donc Ben Arfa.
Ah, il est affûté. Hein. Non, mais c'est vrai, il est affûté.
Alors, shérif, est-ce qu'il s'améliore à chaque match? C'était... Est-ce qu'il a de quoi séduire Emery, surtout?
C'était pas mal dimanche.
On l'avait déjà souligné.
Mais très timide, très timide. On a bien vu que, comme il revenait, il n'osait pas trop dribbler, il n'osait pas trop prendre le ballon. Et là, il commence à... C'est ce qu'on lui demande, hein, d'ailleurs, de toute façon, si on l'a fait venir, c'est aussi pour son côté spectaculaire. Et puis, par contre, la chose nouvelle, c'est qu'il a vraiment des grosses responsabilités parce qu'il a pratiquement pas joué le début de la saison, voire pas du tout. Et là, il se retrouve non seulement titulaire à un poste qui est pas évident, numéro 10, c'est-à-dire meneur de jeu, un poste où peut-être Pastore va revenir, donc c'est un poste un peu en suspens. Le retour est satisfaisant. On va pas aller au-delà, c'est satisfaisant. La note de 6, c'est très correct. Il provoque le penalty et tout. C'est bien. Il est en bonne voie. D'abord, il a affûté. Et le prochain but de Hatem Ben Arfa pour les couleurs du PSG, le premier, c'est pour bientôt.
C'est 6 avec les encouragements, c'est ça?
Voilà, comment c'est on disait ça. Encouragements, voilà, les encouragements du public. C'est vrai que, attendez, c'est pas du grand Hatem Ben Arfa. Parce que
en plus, il n'a pas 90 minutes dans les pattes.
Il n'a ni 90 minutes dans les pattes. Alors ça, c'est plus ennuyeux, je trouve. Je comprends pas pourquoi il n'a pas 90 minutes. La dernière fois, à la mi-temps, c'était contre Lyon. Il sort à la mi-temps et il explique, en gros, qu'il est fatigué. Ça avait joué à peu près à 2 km/h. Avec 3 par quand il y a eu quelques accélérations.
Il y a eu beaucoup le ballon. Il était vraiment gros. C'est-à-dire, attends, d'autres, je sais pas, tu vois, donc.
Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, il doit être capable de faire plus. Simplement, il veut montrer qu'il est capable de s'insérer dans le système d'Emery. Et Emery, effectivement, lui demande de jouer simple pour l'instant, de ne pas tenter sa chance. Mais d'une certaine manière, la qualité de Ben Arfa, vous la bridez aujourd'hui. Parce qu'on sait que Ben Arfa, ce qu'on attend de lui, c'est un peu plus que ça. Parce que ça, c'est, je ne dis pas qu'il y a 50 joueurs en Ligue 1 qui peuvent le faire. Enfin, vous mettez Cyprien, Seri, ils font la même chose.
Moins on le fait jouer et moins ça s'exprime, c'est
ça? Non, parce que là, aujourd'hui, on lui a donné les clés du camion. D'une certaine manière, dans ce système en 4-2-3-1, on le met à son meilleur poste, en numéro 10. Et pour l'instant, il n'ose pas faire. Vous savez, c'est un petit garçon, j'ai l'impression, comme je l'entends dans ses interviews. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'est pas le gars qui s'est imposé, il est plutôt le petit enfant, je suis content.
Non, Pierre, on dit, si tu perds le ballon, voilà. Tu mets l'équipe en difficulté.
Donc il, pour l'instant, il n'est pas encore complètement lui-même, mais le fait de multiplier les matchs à ce poste-là, ça va tout changer. Alors attention, parce que le problème, c'est qu'il est là par défaut, faut pas l'oublier, enfin par défaut, parce qu'il est là au PSG. Quand je vais par défaut, parce que Di Maria pas là, parce que Pastore est blessé, mais il sait très bien qu'il n'est pas le premier choix. Donc il a quelques matchs pour montrer qu'il peut devenir un bis, j'allais dire, et quitte à provoquer des casse-têtes pour Emery sur le côté droit avec Lucas, où à un moment il y aura peut-être match. Mais Lucas, la petite différence, c'est qu'il est très efficace. Depuis le début de saison.
Alors attention, Hervé, elle refait, c'est assis à côté de vous.
Je l'attends, je l'entends.
Bonjour Alejandro.
Bonjour à tous.
Alejandro, Hatem Ben Arfa, vous trouvez qu'il va mieux de match en match, vous aussi? Vous lui auriez mis 6 comme l'équipe?
Je pense que effectivement, il va mieux, physiquement surtout, parce que c'est un joueur qui a très peu joué en ce début de saison, donc on attendait quand même qu'il ait. Je pense qu'un joueur de son profil a besoin quand même
de se mettre en route,
de retrouver ses sensations dans le jeu, parce que c'est pas la même chose de s'entraîner que de jouer des vrais matchs. Et petit à petit, il commence à retrouver ses marques. En plus, bon, c'est une équipe qui ne joue pas du tout comme Nice l'année dernière. Donc, aussi, il faut trouver sa place. Ce que disait Hervé, il sait qu'il est là un petit peu par défaut parce que d'autres joueurs sont absents et que sa fenêtre des tirs est plutôt étroite. Mais bon, je pense que tout le monde attend qu'il qu'il se révèle les joueurs que nous avons tous connus.
Alors tout le monde, effectivement, mais c'est parce que c'est aussi un des rares Français de l'effectif du Paris Saint-Germain. C'est aussi pour ça qu'on a tendance à regarder parfois peut-être un peu trop Ben Arfa en plus.
Mais sa situation s'améliore quand même grandement par rapport à il y a quelques semaines où on se demandait s'il allait craquer ou pas.
Elle s'améliore parce que Di Maria est blessé aussi. Parce que sinon, on n'aurait pas joué les derniers matchs.
Il serait rentré. Il n'est pas au conflit non plus. Comme
non, voilà, c'est ça. Il a réussi à rester.
Il fait le petit garçon, comme vous dites. Il est très sage.
Mais quand même, j'attends, parce que moi, j'adore en plus Ben Arfa, donc j'attends beaucoup plus de lui. Enfin, je pense qu'il peut faire plus. Il est capable de plus. Il est capable de mettre le feu. Alors, il faut qu'il se libère un peu. Alors, c'est vrai que Emery lui demande un certain style de jeu. Mais de temps en temps, il faut qu'il dépasse un peu ce qu'on lui demande, peut-être, pour montrer aussi qu'il est capable de lui de créer du.
Comme le PSG, d'ailleurs. Parce que le PSG.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il arrive dans un collectif qui n'est pas encore 100% en place. Donc, encourageant, satisfaisant.
En tout cas, il y a aussi, alors on a évoqué Monaco qui avait un peu trébuché par son nul à Lyon. Et puis, arrive aussi derrière Lille, derrière Paris et derrière Monaco, Lyon. Lyon qui se retrouve quatrième, enfin quatrième on va dire, même si il y a déjà un énorme trou entre Monaco et Lyon, puisqu'il y a 9 points, si je ne me trompe pas, entre les deux. En tout cas, Lyon a réussi notamment arriver, disons, à cette quatrième place grâce à ce match hier disputé à Nantes. Bien triste pour les supporters des Canaries, un carton contre les Nantais, 6-0, et avec un super joueur dans l'effectif lyonnais qu'on avait déjà vu le match d'avant réapparaître et en grande forme, c'est Mathieu Valbuena.
Il faut féliciter toute l'équipe parce que on savait très bien que Nantes était en difficulté, mais gagner 6-0 ici, c'est jamais bien. C'est vrai que je suis content personnellement et surtout collectivement. Ça n'a pas toujours été évident, mais voilà, on travaille pour et il faut continuer comme ça.
Il y a un supporter des Canaries en régie qui me dit que le gardien de but, en fait, il n'a pas été formé à Nantes. Il aurait été formé du côté de Lyon.
Rio, absolument, absolument. Ouais. C'est vrai.
Il y a une explication, il y a un lien.
Non, parce que je pense pas que c'était le pire. Même s'il a peut-être donné un petit but.
Valbuena, on l'attend la semaine prochaine en Ligue des Champions. Vraisemblablement, Genesio pourra le titulariser.
Contre Séville, dans ce super match qu'on attend.
Voilà.
J'espère.
Non,
j'espère
mais bon retour. Là, on va être honnête tout autour de cette table. On l'avait plus ou moins enterré. Parce que
ah, pas moi. Ah non.
Pas toi.
Ah, c'est mon combat. Ah,
alors,
c'est
vas-y.
Mon combat.
Je te donne la parole.
Non, moi je pense que honnêtement, ce qui s'est passé à Lyon, je dis pas que c'est un scandale, mais
d'accord, je suis d'accord avec toi. Vas-y.
Je suis limite de le penser, parce que je pense que
en tout cas vous
fois,
le dites.
Oui, non, qu'il est à un moment il était blessé, il était moins bon l'année dernière, ça volait avec Fekir, Lacazette, il y avait absolument rien à dire. Et Ghezal qui aussi était en pleine bourre, rien à dire. En revanche, on s'est bien rendu compte que lui n'avait aucun crédit à Lyon. C'est-à-dire que le moindre match où il était un peu moins bon, allez hop, on le mettait sur le côté.
Non, puis il y a l'accueil aussi.
L'accueil.
Ouais,
c'est l'accueil. D'une certaine manière, il était un peu carré par les Lyonnais.
Voilà.
Parce que tous les Lyonnais étaient entre eux, même ceux qui ne s'apprécient pas nécessairement beaucoup.
Hein, non, mais vous parlez en plus que des joueurs, vous ne parlez même pas du public.
Ah non, c'est les joueurs.
Les joueurs.
Pas un super accueil.
Vous êtes mis un peu de côté. Moi, je le tiens aussi d'un joueur qui est plus à Lyon aujourd'hui et qui lui a même dit, Mathieu, tu vois, tu auras des difficultés. Mais voilà, il a un truc, Valbuena, qui est incroyable. C'est que c'est un incroyable guerrier.
Il trouve sa force dans l'adversité.
Il se relève de tout. À Marseille, je l'ai connu quand il arrivait, il prenait des tacles à l'entraînement.
Parce qu'il
n'y
avait
casser.
Pas que ça en plus, Hervé. C'était ça aussi le problème de Valbuena l'année dernière. C'était cette affaire qui n'en finissait pas, étalée partout de ses vidéos intimes et tout. Et le fait d'être écarté de l'équipe de France, il n'a pas joué l'Euro quand même.
Ah non, mais c'était terrible. Il a vécu une année. J'avais discuté une fois avec lui après un match au Parc des Princes. Il a vécu une année terrible, très très sombre. Mais il a quand même réussi à un moment à se relever de tout ça. Alors c'est vrai que ça a été pour lui une méga claque. Hein. Et il pensait arrêter, s'il avait fait l'Euro, arrêter à la fin de l'Euro. Et bien maintenant, il envisage, s'il peut, de revenir en équipe de France. Mais attention, ne le rayez pas.
Deschamps lui a toujours fait confiance en plus.
Hervé, c'est aussi la façon dont c'est la disposition tactique qui le mettait aussi à côté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas les qualités humaines et les côtés sportifs à ce niveau-là. Pas plus que ça, mais c'est surtout par rapport déjà au groupe lyonnais qui l'a pas bien accueilli, donc il l'a mis de côté, ça, on vient d'en parler, mais c'est surtout...
Parce qu'il venait de Marseille ?
Non, c'est pas ça,
pas
c'est parce qu'il y a un esprit lyonnais.
Il y a un esprit lyonnais,
ça a été pareil avec Dorasso, avec Carrière, pareil, c'était le petit Nantais qui arrivait à Lyon, comme il disait, t'envoyais le ballon, tu le voyais pas revenir, mais bon... Il y a ça, et puis surtout la disposition tactique, c'était une équipe qui était en place, donc il n'y avait pas de place pour lui.
Ce qui m'a quand même gêné, c'est qu'à un moment, on puisse imaginer que Cornet était meilleur que Valbuena. C'est-à-dire qu'il y avait.
C'est pas le même poste non plus.
Dans un 4-3-3, il a toujours joué comme ça dans un 4-3. Enfin, il jouait comme ça dans un 4-3-3 avec Didier Deschamps quand il était à l'Olympique de Marseille. Évidemment qu'il pouvait pas déborder comme Cornet. Il a pas la vitesse de Cornet. Mais ce qu'il peut apporter avec son expérience internationale, sa qualité technique, est quand même, j'espère, encore supérieur à Cornet. C'est quand même un type qui est en équipe de France il y a encore un an. Enfin, ou un an et demi. Donc, il faut quand même sous-peser les choses. Et simplement, on expliquait, mais lui, il peut pas parce qu'il garde trop la balle, il fait trop de touches de balle, il fait ci, il fait ça. En gardant la balle, en faisant beaucoup de touches de balle, c'est quand même un des joueurs majeurs de l'Olympique de Marseille. Et c'est un OM, c'est un autre OM qu'aujourd'hui.
Oui, mais maintenant, il a la chance aussi que Gezal n'en finit pas de sortir de ses blessures, que Fekir n'est pas le Fekir qu'on a connu. C'est une chance qu'il a su saisir.
Il a marqué, Fekir, qui est la marque
des grands champions. C'est qu'il a l'occasion de le faire, un peu ce qu'on disait pour Ben Arfa. Et là, il l'a saisi vraiment, Valbuena. C'est bien.
On va voir. La semaine prochaine, Ligue des Champions.
C'est le match de l'année pour eux, c'est ça.
On les attend tous. 2016, on attend Lacazette, on attend Fekir, on attend Gezal, on attend Gonalon, puis on attend Valbuena.
Je suis plus inquiet pour Fekir.
Séville les attend aussi.
Je suis plus inquiet en ce moment pour Fekir, qui a beaucoup de mal à
s'y mettre. S'il met un doublé à 10 minutes de la fin en rentrant,
absolument.
Ça sera très.
Parce que le talent, il l'a.
Très important, et évidemment, c'est un match dont nous parlerons sur RFI. On va aborder un autre sujet, tous ces fils de.
Fais attention à Enzo qui peut frapper! Oh la belle histoire! Le fils de Zinedine Zidane qui vient inscrire le 4e but du Real Madrid!
Seulement je suis content pour le fils, comme un père, mais une fois avoir dit ça en 2 secondes, moi je regarde ce qu'il a fait sur le terrain et c'est l'entraîneur et je suis content de ce qu'ils ont fait tous en général. Quand je serai avec lui tout seul, je lui dirai 2-3 choses.
El lanzamiento, gol! Ha marcado Jordi! Jordi, el empate a 4. Impresionante partido!
L'héritage de mon père est toujours là. Entendre Guardiola dire que cette philosophie de jeu vient de la philosophie de mon père, bien sûr, c'est un héritage. C'est donc une grande fierté pour lui.
L'ouverture du score, elle vient de la tête du capitaine! Paolo Maldini trouve le chemin défilé!
J'ai baigné dedans depuis tout petit, parce que mon père, je voyais un petit peu la préparation qu'il avait pour faire ce métier. Je pense que ça m'a aidé aussi pour durer dans le métier.
C'est vrai que j'ai entendu quelques parents ou quelques joueurs parler de mon nom, mais mon père, c'est vrai qu'il m'en avait déjà parlé un peu, que ça allait m'arriver. Donc on est mis en garde, on s'y attend, et donc ça blesse moins.
Le corner derrière, le but! Oh, le but de le score! La dernière minute!
Voilà les deux derniers fils de joueurs que vous avez entendus. Il s'agit de Thibaut Giresse, qui est d'ailleurs totalement la manière de parler de son papa, Alain Giresse, qu'on entend plus régulièrement ici. Et puis Marcus Thuram, fils du grand Lilian Thuram. Zidane a donc marqué, et ce n'est pas Zizou. Alors, il suffit d'un but, dans un match de 16e de finale de Coupe du Roi, Copa del Rey, en Espagne, avec une équipe B quand même, ou c'est peut-être même du Real Madrid contre un club de 3e division, qui s'appelait le Cultural Leonesa, eh bien pour se faire une place, on va dire, à l'ombre d'une légende peut-être, Alejandro, parce que Enzo d'abord, il s'appelle Enzo pourquoi ? Parce que
Zidane était un admirateur de celui qui était son coéquipier, Enzo Francescoli à Marseille.
Et il a eu bon goût, Zidane.
L'Uruguayen, n'est-ce pas ?
Oui, mais il n'a jamais caché qu'il avait donné ce prénom.
Il le sait d'ailleurs, Francescoli.
À Francescoli.
Oui, j'en avais parlé avec lui.
Ils se sont souvent retrouvés après, ils en ont souvent parlé. Et évidemment, Enzo, on l'attend depuis longtemps, peut-être depuis trop longtemps.
Parce qu'il a 21 ans, quand même.
Voilà, exactement. Donc, c'est pour des débuts en première division, c'est pas super tôt. C'est un joueur, moi, je l'ai pas beaucoup observé, mais d'après ce que j'entends, c'est un bon joueur, sans plus, dans l'équipe B du Real Madrid.
Le Castilla, ouais.
Donc, il y a peu de chances de le voir devenir l'équivalent de ce que son père a été au Real Madrid. Mais bon, c'est une belle histoire quand même, comme on en a connu beaucoup. Elle ne s'achève pas toujours super bien. C'est-à-dire que le fils n'est pas toujours à la hauteur du père. Maldini était un peu une des rares exceptions, on l'a entendu tout à l'heure.
C'est le principe, je suis d'accord avec Alejandro. Le principe, c'est que le talent...
La génétique ne transmet pas le talent.
Non, le talent n'est pas héréditaire en football. Mm-hmm. Maldini, ouais. Peut-être Lampard aussi, parce que
Et les noms peuvent être héréditaires, mais en l'occurrence, Enzo, c'est pareil. Il s'est fait pas. Alors, sur son maillot, il y a marqué Enzo, mais c'est pas marqué Enzo Zidane.
Ce sera ni Francescoli ni Zidane.
Il se fait appeler Fernandez du nom de sa mère, puisqu'en Espagne, non, on peut avoir les deux noms.
La raison, c'était pareil pour Jordi Cruyff. Il mettait pas Cruyff sur son dos, il mettait Jordi. Mais le talent n'est pas héréditaire, parce qu'il y a Pelé a eu un fils.
Qui était gardien.
Beckenbauer aussi a eu un fils. Bon, par contre, c'est pas allé très loin. Mais non, en général, surtout les talents exceptionnels, il n'y a jamais eu de filiation, de transmission génétique du talent. C'est prouvé en football.
Il y a quelques exemples quand même, Christophe.
De
exemple sympa.
De le père en fils. Le contre-exemple, on en parlait, c'est Paolo Maldini qui a été. J'ai regardé un peu pour m'amuser les palmarès comparés de Cesare et de Paolo. Finalement, ils sont pas si éloignés que ça, mais quand même, en sautant une génération, on a multiplié les titres. Cesare avait été 4 fois champion d'Italie. Paolo l'a été 7 fois. Il a gagné 1 fois la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, et Paolo l'a gagné 5 fois. Et Cesare a fait une phase finale de Coupe du Monde, Paolo 4, et une notamment qui lui a permis d'être vice-champion du monde en 1994. Mais c'est effectivement un peu un contre-exemple, et en lisant un peu sur le sujet, on voit dans les témoignages des fils qu'ils ont tous, à un moment de leur carrière, ça revient régulièrement, souffert d'être le fils d'eux parce que suspectés d'être
favorisés,
alignés dans l'équipe, parce que ils ont un papa qui était entraîneur.
Et on parlait de Nice tout à l'heure, évidemment, on pense à Grégory Puel, dans l'exemple récent et en championnat de France, qui se faisait insulter sans cesse par les supporters qui pensaient qu'il avait...
Claude Puel a deux fils, les deux fils ont souffert.
Ouais. Le cas Gourcuff aussi, c'était un peu comparable. Parfois, le fils a dû s'éloigner du père, non ?
Hervé ?
Oui, et puis on a quand même des exemples aussi en Afrique. Hein,
oui,
parce que vous avez
Abedi
Pelé et les frères André et Jordan Ayou, hein, qui font une belle carrière aussi. Et André Ayou, je pense pas qu'il ait, au contraire, il a toujours apprécié que le fait de que son père ait eu une telle carrière.
Mais sauf qu'il portait pas le nom, peut-être que le poids du nom aussi, non.
Oui, non. On savait que c'était Ayou quand même. Hein. Donc je pense qu'il n'y a jamais eu ce souci-là. Et ils ont commencé en plus dans son club au Ghana, le FC Nana. Et là, il fallait y aller parce que le père, pour apprendre au fils, il y allait franco. Donc c'est non, ils ont et puis ils ont cet héritage-là. Je pense pas qu'ils en aient souffert. Au contraire, ils étaient très très fiers de leur père. Et il y a un autre jeune fils d'eux qui est en train d'émerger au Paris Saint-Germain. Alors il va falloir le suivre avec beaucoup beaucoup d'attention parce qu'il va être surclassé. C'est le fils Weah. Le fils Weah, paraît-il, est très très bon.
Il paraît.
Et alors, moi, je l'ai jamais vu. Mais je vois le nombre de buts qu'il a marqué. Donc, il faudra le suivre parce que s'il est aussi fort que son père, ça promet.
Mm-hmm. Bah, on a dans le genre fils d'eux peut-être prometteur les fils de Beckham qui sont pour l'instant à l'école de Arsène Wenger tous les deux au centre de formation d'Arsenal. Oui.
Peut-être.
Oui, mais peut-être pourquoi pas. Mais c'est vrai que on n'a pas d'exemple de fils ayant surpassé le père.
Bah, on citait un peu le cas de Maldini. Maldini
oui,
un petit peu,
oui
bah,
encore, c'était un autre temps.
Il y a le cas d'Higuain, peut-être aussi. C'est-à-dire que le père était un bon défenseur international argentin, etc. Alors que son fils, aujourd'hui à la Juventus, est quand même un des très bons attaquants du monde.
Mmh. Et vous savez, en plus, il y a eu beaucoup de joueurs. Là, on ne les connaît pas parce que simplement, ils n'ont pas fait des grandes carrières. Mais il y a beaucoup de fils d'eux qui jouent. Ouais, simplement, ils avaient des gens qui jouent en D2, en D3.
Bah, Pelé, son père était footballeur professionnel. Voilà, il a arrêté parce qu'il était blessé au genou. Mais après, il y a des filiations. Il y a les familles de footballeurs.
Rio Mavuba est le fils d'un ancien international du Zaïre à l'époque.
Claude Makélélé, etc. Non, mais il y a beaucoup de fils d'eux. Ouais. Simplement, on en retient quelques-uns parce que c'est une image
un peu
plus forte.
Mais c'est quand on parle des joueurs de talent.
Mais Gourcuff fils est plus doué que Gourcuff père, par exemple, qui était un bon joueur, technicien. Mmh. Mais ah bon, il est pas comme entraîneur. On verra peut-être plus tard. Et vous avez aussi les filiations plus générales, par exemple Iwobi. Qui est le neveu de JJ Okocha. Mmh. Vous voyez, donc il y a aussi tout ça.
Il y a la saga Maradona qui est à ses débuts. Maradona, il y a sa fille qui a eu un fils de Sergio Agüero qui s'appelle Benjamin, peut-être.
Alors là, il y a beaucoup de génétique en route, là.
Voilà, on saute une génération. Fils. Et en plus, on saute une génération.
Il y a aussi parfois des papas qui s'effacent pour leur fils. On a le cas, alors c'est une échelle beaucoup moins importante, mais c'était Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur qui est passé par Créteil, mais qui avait joué Corse, qui avait joué au Gazélec, et qui à un moment a préféré partir pour que son fils puisse faire carrière. Mais on pense aussi à José Mourinho, qui lui à un moment était dans l'effectif d'un club au Portugal. Son père était l'entraîneur, et plutôt que de créer des tensions qui auraient gêné son père, il avait préféré. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il a beaucoup porté.
Oui, mais non, mais en Afrique, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fils d'eux dans les équipes nationales africaines, mais des gens qu'on connaît un petit peu moins évidemment ici, parce que qui ont écumé à une époque où les joueurs venaient pas en Europe, mais qui étaient de très très bons joueurs.
Et est-ce que c'est presque, on peut dire, plutôt un handicap alors qu'un avantage?
C'est compliqué à dire.
Si le fils n'est pas excellent, ça peut être un fardeau.
C'est une croix.
Ça peut être compliqué. Mais d'un autre côté, ça peut vous ouvrir aussi quelques portes. Vous savez, c'est un peu comme on dit les fils d'eux. En général, on dit, ça a été plus compliqué pour moi, c'était plus dur parce que j'étais le fils d'eux. Mais si ça vous ouvre les portes nécessaires pour réussir, c'est quand même important.
C'est surtout dans les carrières artistiques, que ce soit au cinéma ou dans la musique, où là, on gagne beaucoup plus de temps. Football. Le terrain, ça reste le terrain.
Après, ça dépend comment on le prend, parce que Thibaut Giresse, il disait que son père, il a été champion d'Europe, il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, il a été deuxième du Ballon d'Or, mais il n'a jamais été champion de France de Ligue 2. Alors que Thibaut Giresse, oui.
Absolument.
Et Thibaut qui joue actuellement à Guingamp.
Mais c'est vrai qu'il expliquait aussi qu'à un moment, vous savez, quand vous jouez, et puis il y a pas mal de chambrages, donc à un moment, quand vous êtes le fils de quelqu'un d'aussi célèbre qu'Alain Giresse, évidemment qu'on vient peut vous chambrer. Mais lui, il prend ça avec beaucoup de philosophie. C'est un jeune, il est plus si jeune que ça. Intelligent, qui a beaucoup de recul. Et il a fait une superbe carrière.
Jordi Cruyff, ça devait être aussi quelque chose de compliqué, parce que par rapport à son père...
Oui. Il a souffert. Lui, il a été victime, il a été pris entre les bisbilles entre Johan Cruyff et puis le président Núñez. Donc, il a été obligé de partir. Et puis, il racontait que quand il arrivait à Manchester United, il a été appelé par Ferguson, donc il avait quand même un minimum de talent. Il était aussi international néerlandais. Et dans les médias anglais, par contre, s'attendait à voir le nouveau Cruyff. Et c'était pas ça.
Ah oui.
Et il en a souffert.
Malheureusement.
Ouais, c'est pas grave, il s'est éclaté quand même.
Donc...
Mais il y a qu'un Gérard Guémour, je peux vous dire. Attention, de ce niveau-là.
Donc en génétique, ça ne se reproduit pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui dans Radio Foot International. Merci à tous et à demain pour le Café des Sports.